Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedi du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.
Bonjour à tous, nous sommes en direct sur Radio Panique 105.4 avec l'équipe d'Elles en parlent encore, une émission de Vie Féminine Bruxelles. Aujourd'hui, nous allons vous parler de différents thèmes liés à la sexualité. Donc aujourd'hui, nous sommes en petit effectif, c'est-à-dire qu'il y aura Bissy et moi-même à l'antenne et nos très chères Stéphanie et Alex à la régie. Alors voilà, avec Bissy, on voulait vous parler de sextoy. Et puis on s'est dit, tiens, en fait, il y a déjà pas mal de podcasts à ce sujet et on n'a pas vraiment envie de parler de choses qui sont dites et redites, vues et revues. Alors pour celles que le sujet intéresse, je vais vous suggérer quelques podcasts. Par exemple, il y a le podcast « Choisir son sextoy » de Vibrante, un podcast de Cosette. Le podcast Expérience du studio Ultra Vague, le podcast Sexo Coucou le cul, choisir son premier sextoy, la question Q, comment choisir son sextoy, et pour ceux qui parlent anglais, il y a encore plus de podcasts disponibles pour vous sur ce sujet. Et donc on vous invite à écouter tout cela si, pour avoir un sujet introductif. Et bien que Bissy et moi, on commence à s'y connaître un peu et qu'on aime bien en discuter.
Tout à fait.
Ce n'est pas ça dont on va vous parler aujourd'hui. Et on est en tout cas fiers de toutes les personnes qui en parlent ouvertement et qui réussissent à lever le tabou sur les sextoys pour que de plus en plus de personnes puissent oser en acheter, en avoir, découvrir leur corps, leur manière de jouir, etc. Donc, c'est parfois des choses qui peuvent être découvertes à deux, mais pas toujours. Donc, autant se pencher sur le sujet soi-même. Mais pour pimenter ses habitudes sexuelles, est-ce qu'il faut forcément des jouets ? Eh bien, évidemment que non. C'est l'approche du livre Jouissance Club, un livre de June Pla, qui a fait beaucoup parler de lui parce qu'il fait une cartographie du plaisir. C'est pas moi qui le dis, c'est le titre. Il te donne des astuces, des mouvements à faire seul ou à deux pour éprouver du plaisir. Alors, c'est pas que les moves simples que tout le monde connaît. Il y a souvent une petite illustration qui explique les mouvements, etc. Et c'est pour pénis, vulve et vagin, et sein, et bouche, et oreille. Et il y a vraiment un peu de tout. Donc, je vous invite à le lire. Je pense que ce livre, ça peut être le top pour les gens qui veulent faire des choses nouvelles, sans passer par les sextoys. Et soit parce que c'est pas leur truc du tout, soit parce qu'ils n'ont pas le budget, ou qu'ils sont intimidés d'intégrer ça, peu importe les raisons. Il faut savoir que pour toutes les pratiques que l'on fait en couple, les deux partenaires doivent être consentants et il ne faut ressentir aucune pression. Alors on le rappelle, parce qu'on aime le rappeler, le consentement c'est donner librement. Aucune pression ne doit peser sur votre partenaire pour vous donner ce consentement. Ça doit être informé, on doit savoir ce à quoi on consent. Spécifique, on consent pour une certaine pratique. Un consentement à un rapport sexuel n'est pas un consentement à une carte blanche dans laquelle toutes les pratiques peuvent être appliquées. Le consentement doit être enthousiaste. Ben oui, il faut que la personne ait vraiment l'air d'avoir envie en plus de dire oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, pour des raisons x, y, ont des traumas liés à l'abandon, peur du rejet, et ont peur de dire ce qu'ils veulent vraiment, et peur de blesser l'autre ou de se faire rejeter si elles disent non. Donc il faut double-checker tout ça, double-check. Et le consentement peut être réversible. Exemple, nous sommes en plein acte, j'en ai marre, je le sens plus, je peux dire non. Et c'est pas parce que l'acte a déjà commencé qu'il faut d'office continuer jusqu'à ce que l'un des deux finisse. Non, on arrête. Bon voilà, je me disais qu'il fallait que je le dise parce qu'on l'entend pas assez souvent. Et après toute cette introduction, je laisse la parole à ma chère Bissy qui va nous parler sextoy affirmant pour personnes trans et non-binaires. Notamment, je te laisse la parole, Bissy.
Merci Léa et preach. Franchement, tu m'amènes à l'église. Amen. Alors moi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler des sextoys. Et oui, c'est un thème pétillant, un thème excitant, mais c'est aussi un sujet qui permet de mettre en lumière comment nos sexualités peuvent aussi être limitées par des carcans hétéro et cisnormés. Alors qu'est-ce que c'est un sextoy ? C'est un objet qui augmente ou facilite le plaisir sexuel. Ça s'utilise seul, avec une ou plusieurs autres personnes. Il y a des sextoys pour différentes parties du corps, pour le sexe, pour les fesses, les tétons, le clitoris, le gland. Certains sextoys vibrent, d'autres imitent les mouvements d'une langue ou encore la succion d'une bouche. Par extension, l'expression sextoy peut aussi s'appliquer aux poppers, aux herbes, aux gels, lubrifiants et autres produits vendus qui sont supposés augmenter ou prolonger l'acte sexuel. Alors, il y a par exemple des godes qui ne vibrent pas, les vibrateurs qui logiquement vibrent, des anneaux vibrants ou non, des coussins vibrants, des plus ou perles anales, des pinces tétans, des masturbateurs, des poupées sexuelles et bien plus. Mais les sextoys, quand on fait des recherches, ben, sont classés de façon très binaire. Il y a les sextoys pour, entre guillemets, hommes, comme les cock rings, les pocket pussy ou les plugs. Et il y a les sextoys, entre guillemets, de femmes qui s'insèrent dans une vulve ou qui stimulent le clitoris. Et ça, c'est vraiment dommage parce que y a plus que des hommes et des femmes. Il y a des personnes aux genres fluides, il y a des personnes non binaires, il y a des personnes qui ont des vulves ou des pénis ou autre chose. Il y a les femmes cis, il y a les femmes trans, il y a les hommes cisgenres, les hommes transgenres et toutes ces personnes et genres ont parfois des besoins de sextoys bien spécifiques. Alors le rayon des sextoys, il est hétéronormé et cisnormé en ce qu'il représente et il sert un certain public, il sert le public hétérosexuel qui se compose d'un homme et d'une femme cisgenre, ça veut dire des personnes qui vont s'identifier au genre qui leur a été assigné à la naissance. Les sextoys classiques se concentrent aussi sur ce que moi j'ai nommé avec ironie l'hétéropénétrativité, le dogme selon lequel le sexe entre guillemets normal est celui entre un homme et une femme dans lequel l'homme va pénétrer la femme. Voilà pourquoi les préliminaires sont appelés préliminaires. Il serait juste la préparation au véritable acte sexuel qui serait la pénétration. Cette conception du sexe, je la trouve fort limitée, à la fois pour les personnes hétérosexuelles, mais pour toutes les autres personnes queer, trans. Du coup, le sexe en solo ou avec d'autres, c'est bien plus que de la simple pénétration. Il y a des millions de façons de stimuler et d'exciter, et les personnes queer peuvent nous en apprendre beaucoup sur le consentement, le slow sex, et de manière plus générale sur la communication dans le sexe. Et donc, je vais vous parler un peu de sextoy. Je ne vais pas vous parler des sextoys hétéropénétratifs sur lesquels vous pouvez trouver plein d'infos sur le net ou dans les sexshops. Je vais vous parler des sextoys qui peuvent nous ouvrir une porte pour sortir de l'hétéronormativité. Pour élargir nos sexualités et qui nous permettraient d'interagir avec nos corps. Des sextoys pénétratifs vaginales ou anales comme des plugs anales, des vibros, des didos qui peuvent être utilisés par n'importe qui et pas juste les femmes mais aussi les personnes non binaires par exemple. Ou les sextoys qui peuvent s'utiliser en couple et qui stimuleraient deux ou plusieurs personnes, peu importe leur genre, en même temps. Ou encore des sextoys qui permettraient une toute nouvelle pratique de masturbation, les hamper/grinding toys. C'est des sortes de supports qui peuvent ou pas vibrer et contre la personne peut se frotter lorsque on se masse. La personne peut se frotter contre ce sextoy comme lorsqu'elle se masturbe avec un coussin ou un autre objet sur lequel elle peut sauter, entre guillemets. En fait, de nombreuses personnes ont eu leurs premières expériences sexuelles en se frottant contre leur coussin et cette pratique masturbatoire est encore trop peu représentée sur les écrans et dans le rayon des sextoys. J'aimerais aussi vous parler de Buck Angels, qui est un des premiers performeurs porn et aussi un des plus célèbres hommes transgenres. C'est un pionnier, il est aussi éducateur sur les sexualités et producteur. Et il a créé le premier sextoy spécifique pour les hommes trans ayant des vulves et qui prennent de la testostérone, qui s'appelle le Buck Off. C'est un produit pour se masturber sans forcément se toucher. C'est un sextoy non pénétratif pour les hommes trans qui pourraient se sentir triggered dans leur dysphorie par des sextoys pénétratifs. Et donc ces sextoys pénétratifs classiques peuvent créer la sensation d'avoir un sexe entre guillemets féminin et certains hommes trans ne veulent simplement pas être pénétrés. La prise de testostérone augmente aussi chez la plupart des hommes trans qui n'ont pas fait d'opération, la taille du clitoris aussi appelé déclite par certains et le buck-off permet d'envelopper le déclite, une succion se crée et on peut bouger le toy en haut et en bas et se branler de cette manière-là. Son deuxième sextoy, c'est le Kiss X, aussi pour les hommes trans qui ne prennent pas de testostérone et pour toute personne qui a un clitoris. Comme le matériel est très élastique, ce toy peut se mettre sur tout type de sexe. Au final, c'est un masturbation sleeve, donc un objet qui encapsule un pénis, un clitoris, un glyclite, peu importe. Alors, Buck, il a aussi créé un lubrifiant pour les hommes trans ayant une vulve, puisque utiliser de la testostérone en ayant une vulve fait que la testostérone va enlever l'œstrogène du corps. Ce phénomène s'appelle l'atrophie et est comparable aux changements hormonaux dont les personnes ayant un utérus passent durant la ménopause. La vulve, elle fonctionne différemment, surtout au niveau de la production de lubrification. Des douleurs peuvent aussi apparaître et l'utilisation d'un lubrifiant peut aider pour avoir des rapports sexuels plus agréables. Et ça s'appelle du white labeling. Donc en fait, c'est changer de label pour attirer une certaine communauté spécifique, parce que les lubrifiants, ben, ça existe depuis longtemps. Mais c'est souvent des produits qui vont être fort genrés ou s'adresser à un certain type de public. Donc en posant un autre label sur un même type de produit, ça permet de visibiliser cette communauté, de montrer que leurs besoins sont existants et qu'il y a plein d'autres personnes que des personnes cis et hétéros. Alors, pour les femmes transgenres qui ont fait une vaginoplastie, il existe aussi des sextoys plus safe que d'autres, puisque la paroi vaginale peut être plus étroite. Et donc, des sextoys qui stimulent le clitoris, comme les aspirateurs de clito, des vibro qui combinent stimulation clitoridienne et pénétration avec un toy plus petit ou moins épais, existent aussi sont chouettes à tester. Alors, il y a de nombreux sex shops qui existent et qui ont pour objectif de proposer des toys pour toutes les identités de genre et tous les corps, et qui essayent de faire en sorte que les personnes trans et les personnes non binaires se sentent à l'aise, confortées dans leurs identités, affirmées et sexuellement libérées. Mais malheureusement, le business des sex shops alternatifs, c'est aussi un business qui est soumis aux injonctions de notre société capitaliste, raciste et sexiste. Et il est dur de s'offrir un chemin et de trouver sa place sur un marché qui propose des produits souvent à prix très très bas, souvent de mauvaise qualité et qui joue à 100% sur les conceptions classiques et hétéronormées de la sexualité. L'appropriation des codes, des idées, des produits queer, sex-positifs ou féministes par des entreprises de sextoy, ça peut s'appeler du pinkwashing, lorsque ces compagnies veulent juste se donner une image progressiste, moderne, LGBTQ-friendly, sans un vrai engagement derrière. Il y a des sex shops qui sont véritablement queer, c'est-à-dire gérés par des personnes queer comme le shop NB, qui s'écrit E-N-B-Y, pareil pour les personnes trans et non-binaires. Et ces shops doivent vraiment se battre contre d'autres sex shops qui se donnent une image progressiste et queer, mais qui en même temps prétendent avoir le monopole sur certains termes ou produits et qui collent des gros procès à ces petites entreprises. Voilà, donc on a fait un petit tour sur les sextoys, on a aussi parlé du business des sextoys, et maintenant j'ai le plaisir de vous laisser sur une petite chanson de Tinashe. All my bitches look like money in the bank. When they see us, they got nothing left to say. Out the bottle, sipping on some Dom Pignon. I look forward to the shit you never know. I'm a superstar, bitch. I just bought a car, bitch. Flat out in the morning. I'ma be exhausted. You can see it when I'm breathing. I'm a cold bitch, can't believe it. Cash, clothes, fast cars, fast lane dash, playing with the NASCARs. Money, cash, clothes, fast cars. I'm in a valet, chilling with a bad bra. Money, cash, clothes, fast cars. I'm finna pass y'all, mask on, mask off. Money, cash, clothes, fast cars. Better ask them, I'm a little rascal. Hey, you better ask them. I can't save you if you just ain't on the way. They should pay me how they copy what I say. They don't know the road that we've been on. This shit ain't a joke, I'm a villain. I'm in first place, need a ribbon. They don't understand that I'm the shit. I'm a superstar, bitch. I just bought a car, bitch. Flat out in the morning. I'ma be exhausted. Fast lane dash, playing with the NASCARs. Money, cash, clothes, fast cars. I'm in a valet, chillin' with a bad bra. Money, cash, clothes, fast cars. I'm finna pass y'all, mask on, mask off. Money, cash, clothes, fast cars. Better ask them, I'm a little rascal. I'm a little rascal. Get that money, ho. Alors bonjour à tous et
bienvenue sur Radio Panique 105.4. Aujourd'hui, on a une personne spéciale invitée avec nous au studio. C'est King Baxter. King Baxter est queer militant, artiste, performeuse. Il fait des sons, des vidéos de dingue que vous pouvez découvrir sur YouTube et Bandcamp. On va vous mettre les liens sur nos réseaux sociaux. Baxter crée aussi des costumes fantasy, gender queer, alienestre. Yul peut aussi être entouré dans ses performances de cuir, harnais, de latex ou de chien-chienne humain-humaine. King Baxter, c'est un personnage volcanique qui investit la vidéo, la photo et la performance. Et justement, aujourd'hui, on va discuter de toutes ces choses. On va parler des sexualités. On va aussi parler des sextoys et où est-ce qu'elle en est l'hétéronormativité dans tout ça et la manière de la défier. Du coup, Baxter.
Salut.
Et je pense que ma première question pour toi, ça serait la première qui m'est venue, qui m'a sauté aux yeux quand je regardais tes performances, tes vidéos. Donc commençons un peu par l'extérieur, dans tes costumes, tes performances. Quel choix est-ce que tu poses? Pourquoi? Enfin, moi, je te ressens quand même comme un personnage très puissant, powerful, dominant aussi, mais via plein de différents codes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui. Déjà, au tout début, j'ai décidé, ça a été une véritable décision d'être roi, d'être king, quoi. Alors à l'époque, je ne connaissais pas du tout la notion de drag king. Je connaissais des drag queens, mais je connaissais zéro drag king. J'étais à Nice, paumé, dans le sud de la France, tu vois. Il n'y avait rien de tout ça, à part RuPaul sur MTV, tu vois, je n'avais vraiment rien. Mais ouais, ça a été super important pour moi de me dire king et d'être dominant. Parce que j'en avais marre... de l'hétéropatriarcat qui était autour de moi et que comme je fais déjà 1m93 et que je suis un corps intersexe et que... Enfin à l'époque j'étais pas au courant que j'étais intersexe mais j'ai quand même un corps qui est présent quoi. Donc, j'avais un ami qui disait que j'avais un corps compétent.
C'est un adjectif intéressant.
Oui, dans le corps performant quoi. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'on était obligé, malheureusement, d'asseoir des positions plus fortes, quoi. Et donc, être King Baxter, c'est super empouvoirant, quoi. Et je conseille à chaque fois toujours à tout le monde de trouver son King Baxter, quoi, dans cette idée-là. Après, du coup, ça, c'est pour le fond, vraiment. Et dans la forme... Il y a rien de plus représentatif que genre une maîtresse dominatrice ou un maître dominateur de tout ça.
Pour incarner ce pouvoir et cette puissance.
Voilà, c'est ça, pour incarner. Parce que ça m'intéresse aussi d'avoir... de parler de corps, tu vois. De parler avec mon corps, du coup, comme outil.
Ouais.
Et puis... et de sexualité, de trans... et puis, maîtresse dominatrice, je l'ai été aussi. Et en fait, je l'ai été parce que je me suis rendu compte au travers de ma sexualité que les fois où j'ai eu des rapports avec des mecs cis, ben, c'est ce qu'ils cherchaient, mais que c'était pas assumé. Du coup, c'était toujours très conflictuel. Et moi, ça me pesait beaucoup. Au bout d'un moment, j'ai compris qu'en fait, ça passerait mieux si je me faisais payer pour ça.
Ouais, c'est super intéressant. Beaucoup de mecs cis ne vont pas assumer ça, ne vont pas aller jusqu'au bout. Ça reste un peu une fantaisie, un truc quand même avec une connotation un peu négative ou salace dont on ne pourrait pas en fait parler.
C'est ça.
Alors qu'en fait, on est en 2021.
Bah maintenant, j'espère que ça change un peu, mais c'est clair. Ouais. Enfin, non, ça va pas tant changer que ça, mais pas pour tout le monde, peut-être pour une partie. Mais le côté déviant, en fait, tu vois. Moi, maintenant, je commence vraiment... Enfin, il y a aussi ce truc-là, 5 ans après, tu vois, genre, je vois très bien quand les gens considèrent que ce que je fais, c'est déviant. Alors que le BDSM, donc le BDSM faisait déjà plus ou moins partie de ma vie quand même, hein, je suis pas arrivée là par hasard. Et surtout qu'en fait j'ai découvert que c'était un monde de jeu et de consentement.
Donc il y a beaucoup à apprendre.
Du BDSM?
Oui.
Ah, de ouf.
Ouais.
De ouf, mais en fait, toute l'enveloppe visuelle, tu vois, que les gens, sur lesquels les gens fantasment, en fait, ne sont que leurs reflets.
Ouais.
Tu vois.
Et dans ce que tu dis, par rapport à dans tes performances et à ton corps comme outil, comme instrument qui permet de véhiculer tes valeurs, tes désirs, tes rêves, ton art, et à la fois, ben, c'est inspiré de tes propres expériences. Ce corps-là, j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu ce thème un peu futuriste, autre que humain ou plus que humain, que je sens un peu dans tes performances. Comment est-ce que tu te sers de trucs extérieurs, comme par exemple, je parlais de vêtements, de harnais, d'accessoires, de perruques, de vraiment créer ce personnage. Je sais pas comment ça se développe, comment tu te sers de ces choses, à quoi ça te sert?
Déjà, pour le personnage lui-même, tu vois, il y a une esthétique. Il y a plusieurs costumes, il y a des costumes de rituel, où donc il y a vraiment des très longues robes toges, tout ça, mais tout dépend aussi de mon mood, quoi.
Ouais.
Après, dans les accessoires, j'allais dire, il y a le chien.
Le chien. Définissons.
C'est mon meilleur accessoire.
C'est ça ou à la mode.
Ouais. Non, mais c'est quelque chose de super important aussi, en fait. En fait, c'est une preuve. C'est une preuve, voilà. C'est-à-dire que je rentre avec quelqu'un en laisse.
Oui.
Et c'est une preuve de cette autorité.
Ouais.
De King Baxter,
ouais.
C'est aussi pendant la performance, c'est aussi une preuve que en fait cette autorité et cette image du BDSM n'est pas que violence gratuite, ça ne l'est pas du tout en fait. Enfin, à partir du moment où c'est consenti,
il n'y a pas de violence gratuite.
Voilà, parce qu'en fait il y a des moments qui peuvent être très doux et très beaux avec ces chiens chiennes,
drôle et tendre aussi,
drôle et tendre tout, il y a vraiment une dynamique de duo, quoi. Même si voilà, les rôles sont définis, et voilà, les harnais, tout ça, c'est une question d'esthétique. Après, il y en a certains, c'est moi qui les crée.
Oui.
Vraiment, où je fais de la couture. Et du coup, ça me permet, par exemple, de faire des harnais, mais qui viennent, genre, serrer ma poitrine. Et du coup, ça vient jouer comme ça avec mon corps. Parce que c'est pas encore la même chose que quand j'ai un bandage sur la poitrine ou un harnais avec les seins nus, un harnais en croix, genre.
Ça, c'est super intéressant. Est-ce que tu pourrais... peut-être nous expliquer un peu plus, parce que je pense que pas tout le monde sait exactement ce que c'est, et un peu nous parler, en fait. Donc je l'ai appelé la body gear gender affirmative. Tout ce qui est donc, parce que on va aussi parler de sextoy, mais donc on sort des sextoys, mais on reste quand même dans un champ où c'est pas pour ton plaisir sexuel, mais pour affirmer, pour mieux te sentir, pour mieux exprimer un genre ou des genres. Et là aussi, il y a plein d'outils. Par exemple, les packers, par exemple, les binders. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer en quelques mots ce que c'est, si tu as de la connaissance dessus, et si tu t'en sers, comment et pourquoi?
Alors, je m'en sers. Tout dépend des jours et de mon humeur et de comment je me sens. King Baxter, particulièrement, a été décrit comme... Enfin, je l'ai décrit à l'époque comme étant à genre. Mais en fait, il est multigenre. Enfin, il fait ce qu'il veut, quoi, et il emmerde tout le monde, parce que c'est King Baxter, bien évidemment. Et moi, en tant que personne humaine sur Terre, je suis donc une personne intersexe, je suis une personne qui est aussi en transition. Et en fait, je suis une butch. Et dans l'idée que la butch est déjà un premier pas dans la transidentité, quoi. Plutôt dans ce sens-là. Ça a été très difficile pour moi d'accepter le fait ce terme-là, ouais. Parce que ça a été pendant très longtemps une insulte qu'on m'a renvoyée. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était... en fait, on m'avait éloigné de ma culture en m'insultant de ce que j'étais. Mais du coup, oui, le binder, alors c'est pour contraindre la poitrine, pour casser, pour venir casser les formes des seins et aplatir un petit peu. Donc sous une chemise, voilà, il n'y aura pas forcément les courbes de tes seins. Ouais. Et plutôt, ça a donné une illusion de pec, mais en fait, tout dépend de la taille de ta poitrine aussi, de base, quoi. Moi, je sais que j'ai une poitrine qui est, même si pas énorme, mais quand même présente. Et du coup, ça me fait quand même du bien. Ouais. C'est beaucoup plus agréable que des brassières de sport. Avant, je mettais des brassières de sport qui contraignaient à fond. Ouais. Ça m'a niqué les épaules.
C'était l'impression de mettre plusieurs brassières.
Et ça me faisait trop mal aux épaules et tout. En fait, j'avais trop mal au dos beaucoup plus. Et en fait, j'ai acheté un binder à ma taille.
C'était un grand... C'était rien à voir.
Et en fait, ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien. Donc ça, et le binder, je le porte pas tous les jours dans ma vie. Il y a des périodes vraiment. Il y a vraiment des périodes où mes seins me font chier, quoi. Je peux pas les voir, où je suis vraiment dans une dysmorphie et j'y arrive pas. Et du coup, le fait de porter un binder, bah ça me fait me sentir plus à l'aise, quoi. Ça, après le packer, ouais, il me semble. J'ai un doute tout d'un coup, mais c'est des coques pour représenter une forme de pénis, de phallus sous le pantalon. Ça, c'est un peu genre pour l'instant le truc que j'ai pas encore avec moi, mais dont je rêverais d'avoir. Et c'est encore un autre stade pour moi dans l'acceptation de qui je suis vraiment. Parce que c'est vraiment pas évident, pourtant c'est quelque chose que j'ai toujours désiré avoir. Et voilà.
Et on va vous laisser sur un son de King Baxter que vous avez écouté en avant-première de son album Revenge qui sort très bientôt. Et ce son s'appelle 700 grammes.
Laisse mes doigts aller dans ta bouche, ma main serrer ton cou. Je veux voir les larmes couler le long de tes joues. Viens, laisse mes doigts aller dans ta bouche, ma main serrer ton cou. Je veux voir les larmes couler le long de tes joues. À genoux, c'est comme ça que je t'aime. À genoux, c'est comme ça que je t'aime. I'm hot man as hell, I'm hot. À genoux, c'est comme ça que je t'aime. À genoux, c'est comme ça que je t'aime. I'm hot. À genoux, c'est comme ça que je t'aime. I'm hot.
I'm hot man as hell, I'm hot. I'm hot man as hell, I'm hot. Trouve-moi ta discipline, oui celle que tu me dois. Soumis heureux, doit honorer sa domina. I'm hot. Serrer ton cou, je veux voir les larmes couler le long de tes joues.
On vient de s'écouter 700 grammes de Baxter et vous écoutez l'équipe d'Elles en parlent encore sur Radio Panique 105.4. Après avoir parlé de sextoy, de sexualité et d'accessoires, je vais vous parler sur quelque chose dont on aimerait l'accent, mettre l'accent et qui nous semble hyper important. Et quand je dis « nous », je mentionne Bissy en studio, mais je suis sûre que je mentionne aussi Stéphanie et Alex, et sûrement le reste de l'équipe de « Elles en parlent encore ». C'est-à-dire qu'on est dans une société super sexualisée et qu'il y a vraiment une pression incroyable sur tout le monde pour avoir envie de sexe, être bon, savoir faire jouir, jouir soi-même. Et en fait, on en a marre et on a envie de dire stop et on n'a pas envie de participer à une pression supplémentaire ici en émission. Donc on veut consacrer cette deuxième partie d'émission à parler de cette pression, à avoir des rapports et à parler de thèmes, surtout d'asexualité également. Et donc déjà, depuis très longtemps, il y a une pression qui s'exerce sur les femmes, plus généralement, d'être bonne, d'avoir le physique sexy. Et là, on ne parle pas de critères de beauté, mais des critères de baisabilité. Rajoutez à ça la pression de devoir bien faire l'amour, d'être un bon coup. Et ces pressions commencent dès l'adolescence. On laisse de moins en moins d'espace pour que les jeunes qui commencent leur sexualité arrivent avec zéro expérience. Donc ils doivent reproduire ce qu'ils ont vu dans des pornos et ils ont une pression à avoir un appareil génital parfait, à durer, à performer, à être souple et j'en passe. Les hommes souffrent aussi de cette pression car le stéréotype est qu'ils en ont toujours envie, qu'ils ne pensent qu'à ça. Et du coup, ils sont coincés dans ce rôle et dès qu'ils ne remplissent pas ce stéréotype, ils se sentent en perte de masculinité dès qu'ils ont une chute de libido et il y a trop de choses liées à l'identité qui sont remises en question dès qu'ils ils n'ont pas envie de faire l'amour. Alors qu'en fait, c'est 100% ok, naturel et tu peux ne pas avoir envie. Et donc, voilà, tout ça en rajoute que ce soit... Enfin, tous les genres ont... leur propre pression personnelle. Et maintenant, il y a une pression supplémentaire que j'ai vue s'ajouter via les réseaux sociaux. Je parle parce que je parle de mon expérience moi-même. C'est une pression d'avoir le muscle pelvien musclé. Alors, pour être un meilleur coup ou pour avoir des orgasmes plus intenses, etc. Et je me dis, mais est-ce que ça aide vraiment nos orgasmes de nous faire rabâcher par des pubs de ce genre? Je pense que ça rajoute des insécurités à des gens, du genre... Je ne suis pas assez musclée du vagin, je n'ai jamais fait de Kegel, j'ai oublié mon workout de muscles pelviens. Lorsqu'on sait que les orgasmes, ce dont ils ont le plus besoin, c'est de laisser aller. C'est d'un esprit qui se vide, c'est de dire non à ses insécurités. Et c'est ça qui aiderait nos orgasmes et pas ton périphyte avec lequel tu peux jouer à des jeux d'arcade avec ton vagin. Voilà, sorry, petit moment de coup de gueule parce qu'il y en a marre. Donc voilà. On a aussi d'autres pressions. La pression des plans cul. Le fait de devoir faire des expériences. Parce que oui, maintenant, depuis que les sexualités sont moins taboues, on parle plus de BDSM, de plans à trois. Et si on se retrouve dans un entourage avec beaucoup de gens qui ont une sexualité très ouverte, qui est une sexualité très affichée, etc., alors on peut ressentir une pression supplémentaire, celle d'essayer des trucs. On peut alors sentir qu'on est trop vanille. Vanille étant un terme pour désigner les gens qui aiment le sexe conventionnel, de manière plus traditionnelle. Donc sans accessoires, sans BDSM, sans fétichisme. Et en fait, être vanille, ben, c'est ok. C'est tout à fait ok. Il faut bien s'en rappeler et surtout ne pas céder à tenter des trucs alors qu'on n'en a pas envie pour faire plaisir, alors que ça nous fait pas du tout plaisir. Tout ça pour dire que tout cela doit cesser. Et mettez-vous en question si vous mettez la pression sur quelqu'un à propos de sa sexualité. Et voilà, les gens qui reçoivent aucune libido reçoivent 1000 conseils à la minute. Masturbez-vous jusqu'à ce que ça arrive, l'appétit vient en mangeant. Merci, mais non merci. Donc ce qui nous en vient aussi au sujet qu'on veut aborder aussi, c'est la sexualité. Elle apostrophe asexualité, que ce soit bien clair. Alors d'abord, on va écouter Baxter qui va nous parler de son expérience. Et puis je reviens vous parler d'asexualité.
Ouais. Du coup, King Baxter sur scène, ça me venge d'une certaine manière, parce que King Baxter sur scène a... un strap-on avec un god.
Du coup, encore ceinture, bien plus quoi. Visible.
Ouais, carrément.
Voilà. Que sous le pantalon.
Ouais, mais du coup, tu vois, c'est vraiment des jeux de comment est-ce que j'ai essayé de trouver une place sur scène pour établir les rapports à mon corps et à mes sexualités et à mes genres. Par le biais de la scène, quoi. Tu vois, genre, profiter de la scène pour être quelqu'un d'autre.
Ouais.
Vraiment. Parce qu'à l'époque, j'ai l'impression d'être vieille, mais bon.
À l'époque.
Je sais pas, King Baxter. J'étais sur scène avant, je faisais de la batterie dans des groupes de punk et tout ça, mais King Baxter est arrivé genre en 2014.
Ouais.
Et c'était. Il y avait la place nulle part en fait pour dire simplement, tu vois, je suis une personne transgenre et. Et j'ai envie d'en parler, quoi. Tu vois, genre, déjà, à l'époque, dans mon école, on me disait, genre, des trucs sur le genre, là, on ne comprend rien.
Pas du tout.
Alors que j'avais fait une vidéo avec des paysages, tu vois.
Bon. C'était déjà trop compliqué.
Ouais, c'était déjà beaucoup trop de bashing et tout ça. Et,
mais c'est assez pionnier, hein, vraiment, en 2014. Ouais. Je veux dire, ça dépend toujours des espaces, des pays, mais il y a quand même beaucoup de choses, là, qui changent.
Ouais, grave.
Donc, ça n'a pas... d'être évident, enfin, c'est très courageux.
Non, c'est vraiment pas évident. Mais en même temps, j'avais pas d'autre choix. En fait, j'ai pris conscience aussi... je savais très bien ce que je faisais, mais je savais pas à quel point je me rendais service.
Ouais.
À quel point je n'avais en fait que cet espace-là. Parce que comme c'est sur scène, ça peut être fantasque, tu vois. Et tu peux être dans la provocation et t'es protégé parce que...
Ouais.
T'es sur scène,
ouais.
C'est pas la réalité, tu vois.
C'est un moment précieux où tu peux fullement,
totalement
t'exprimer en fait.
Tout peut se passer sur scène.
Ouais.
À partir du moment où c'est dans ce cadre-là, dans cette black box, qui est les scènes de théâtre ou la scène de manière générale, tout peut se passer parce que c'est sur scène et qu'on est là pour voir un événement en tout cas, tu vois. Et du coup, ça m'a pendant très longtemps permis d'exprimer ça, jusqu'à ce que ça m'a permis un peu de m'asseoir, tu vois, et de m'éduquer.
De consolider, en fait, et de prendre aussi, de sortir aussi de la scène, dans la vie de tous les jours, en fait.
C'est ça. C'est ça. Et puis voilà, j'ai beaucoup aussi, en arrivant ici à Bruxelles, j'ai beaucoup fait de concerts pour supporter des associations pour lesquelles il était important que je sois militant.
Oui.
Bon, alors forcément des assos de communauté queer, mais aussi des assos comme une SOPI, donc qui lutte pour les droits des travailleurs travailleuses du sexe. Mais on a fait une tournée avec le SNAP, qui était spécial. Sex worker performance and narratives et en fait d'avoir incarné autant de fois King Baxter dans des lieux safer et queer parce que avant c'était pas le cas quand je faisais des performances à Nice et tout. Bon, bien sûr, il y a plein de gens qui sont adorables en vérité,
qui sont intrigués,
qui sont amusés ou
qui sont ouverts à l'expérience.
Ouais, qui comprennent, qui... Enfin, voilà, il n'y a pas que de l'agressivité. Oui. C'est juste que l'agressivité est quand même super violente.
Il y en a, et elle n'équilibre pas, quoi.
Non, ouais, voilà. Mais voilà, j'avais jamais joué dans des lieux concernés.
Ouais, donc dans ces lieux-là où les personnes sont concernées, le public est concerné, que ce soit des personnes queer, des travailleuses du sexe, ça donne encore toute une autre dimension parce que tu te célèbres pas juste ton personnage,
non,
mais tous les éléments que tu utilises célèbrent aussi la communauté ou les communautés.
Et ça, c'est ultra fort. C'est super, super fou.
Et comme on a aussi parlé d'asexualité pas mal dans cette émission, est-ce que tu pourrais nous en parler et peut-être un peu démystifier en quelques mots que dans l'asexualité, c'est tout autant une sexualité ou que le LGBTQIA, ben, le A, il est là-dedans, hein, c'est pas quelque chose à part. Les personnes asexuelles ne sont pas dans une bulle hermétique qui flotte autour et peuvent... faire plein de choses dans des performances qui seraient jugées très sexualisées ou sexuelles. Enfin, voilà.
Ça ne nous empêche pas de parler de sexualité.
Oui.
Ou d'en avoir une, en fait, parce que la sexualité, effectivement, est une sexualité.
Oui.
C'est assez difficile à capter pour beaucoup de gens, parce qu'en même temps, c'est très divers. Je veux dire, ça va être vraiment juste ma parole, quoi. Mm-hmm. Mais... bon, alors, les sexualités, déjà, moi, les sexualités que, pour lesquelles je me présente, aussi avec King Baxter, c'est donc forcément le corps assigné femme de naissance qui porte un strap-on, et donc forcément, il y a un rapport soit de... en réalité, pour moi, c'est une des sexualités... du L de LGBT ou du G de TPG plutôt, bon, bref,
TPG, transpédéguine.
Donc c'est une des réalités que j'avais aussi envie de montrer. C'est aussi une sexualité qui se retrouve dans le BDSM, de la femme virago, genre beaucoup plus Amazon et géante, quoi.
Oui.
Et au sexe d'homme qui est là. Alors après, tu vois, genre il y a des réactions différentes suivant les personnes qui sont en face. Si j'ai des hétéros, ils sont là, genre ah, sodomite. Tu vois, mais oui, tout à fait.
Tout à fait. Sodom et go.
Ça sert à ça, hein, voilà, aussi. Mais, bref. Et surtout, en fait, en fait, c'est le BDSM qui m'a fait me rendre compte de mon asexualité. J'ai d'abord eu, genre, peut-être une attirance, en fait, et une sexualité très sapio. Je me considère très sapio aussi en tant que personne, sapiosexuelle, donc un rapport très à l'intellect. Donc ouais, les premiers émois amoureux étaient vraiment tournés vers des filles. Et puis les garçons, quand ils ont commencé à arriver dans la cour de récré ou quoi, ils devaient toujours m'offrir quelque chose en échange. Donc en fait, j'étais déjà dominante.
Voilà, c'était déjà de l'entendre des bites à l'écompris.
C'est ça. Et ouais, donc j'ai toujours
le lunch et le dessert.
Voilà, c'est ça. J'ai fait ton lunch et j'ai fait ton goûter. Sinon, tu n'as pas le droit de m'approcher. Voilà. Et puis, je pense que d'une certaine manière, pour me faire accepter, et par curiosité aussi, j'ai eu des rapports sexuels avec des garçons, parce que sinon, j'étais toujours vierge. Tu sais, il y a toujours ce truc de...
Oui. Le mythe de la virginité.
Le mythe de la virginité, voilà. Pénétrative, exactement. Donc, j'ai pas réussi à y échapper. Et puis, je comprenais pas vraiment trop ce que je foutais là. Tu vois, j'étais pas très clair pour moi. Et ensuite, j'ai appris effectivement ce qu'était la sexualité, ce qu'était le sapiosexuel aussi. C'est des termes dans lesquels je me retrouvais beaucoup plus. Et surtout, avec le BDSM. Parce que le BDSM m'a montré que c'était l'endroit de ma sexualité. Dans le sens où, la plupart du temps, en plus, Jouir de ne pas se faire toucher.
Oui.
C'est quand même quelque chose.
C'est un concept. En fait, tu as trouvé là dans cette niche.
C'est ça. Des endroits. Ouais. Parce que consenti, parce que accordé ensemble.
Mmh. Ouais. Aussi parce qu'il y a, du coup, il y a une réflexion aussi derrière, je veux dire, ce côté de faire une connexion avec une personne, devoir discuter, parler ensemble, établir des bases. Ça rejoint aussi ce truc, enfin, cette sapiosphère.
Ouais.
Ouais.
C'est clair. Et puis. Puis voilà, tu vois, genre d'être célébrée aussi en tant que femme forte. Parce que c'est comme ça que je vendais la chose, oui. Parce que c'était quand même un réseau hétéro, quoi.
Oui.
Mais c'est quand même aussi très jouissif pour le mental. Mm-hmm. Surtout quand tu t'as passé le reste de ta vie
à te
faire emmerder parce que t'étais grande, parce que t'avais de la poitrine, parce que t'étais blonde, mm-hmm. parce que t'étais tout ça en même temps et que tu n'as jamais fait ça.
Ouais.
Et du coup, ouais, c'est
réapproprier toutes ces choses.
Ouais, ça m'a permis de me réapproprier mon corps, de me réapproprier ma sexualité, et en fait d'être tranquille avec tout le reste, quoi. Ouais. C'est-à-dire que genre le reste ne m'intéresse pas, quoi. Ça ne m'intéresse pas parce que je sais que ça ne me correspond pas.
Ouais.
À partir du moment où il n'y a pas de parole, c'est juste pas du tout possible pour moi. Et puis en fait, j'ai tellement le BDSM m'a tellement appris depuis mes 17 ans, quand même, tu vois, m'a tellement appris à respecter le consentement et à comprendre le langage corporel d'une personne.
Être à l'écoute.
Ouais, qui ne dit pas, tu vois, quand ça va pas. Que du coup, tu vois, genre, même pour moi, genre, dire bonjour à quelqu'un, je vais garder une distance parce que je le connais pas et que je connais pas cette personne. Et que je sais pas si elle aime ou pas qu'on lui fasse la bise. Bon, alors en ce moment, c'est un peu compliqué, mais que même le truc du coude ou se prendre dans les bras, enfin voilà.
Oui, le consentement, il est présent dans tout plein d'actes de la vie quotidienne. Et maintenant.
Et même, tu vois, genre. Je sais pas, je suis avec des potes, on est en train de mater un film sur grand écran, vidéoprojection, tout ça. Je vais demander avant si c'est pas dérangeant. Que je m'installe à moitié sur ma pote, tu vois. Même si c'est pas dérangeant.
Oui.
Mais en fait, je suis obligée de le demander, quoi. Mm-hmm. Parce qu'en fait, à l'inverse, il y a des fois où c'est entendu et que forcément, il y a des relations qui se passent très bien. Mais on peut me tétaniser en me touchant la main.
Mm-hmm.
Alors que je trouve pas ça désagréable.
Oui. C'est le fait de ne pas demander qui est...
Mais c'est le fait de pas m'avoir permis de le conscientiser. Ça, mais c'est vraiment genre une réaction que je gère pas.
Oui.
Mon corps se freeze, quoi, tu vois. Ah, mon Dieu, un contact. Ah je sais pas, peut-être qu'en fait, je déteste qu'on me touche. J'en sais rien. Je pense pas. Il y a quand même beaucoup de situations où j'aime bien, où j'aime beaucoup être touchée, tu vois, mais...
En tout cas, il y a cette étape-là et cette sensibilité accrue et le BDSM t'a vraiment permis de, non seulement explorer ça dans le domaine du BDSM, mais dans plein de choses de la vie quotidienne, à faire en sorte que tu te sentes bien, en fait, et que les personnes autour de toi se sentent aussi bien. Hein.
Mais c'est ça, c'est m'assurer que tout est OK, quoi.
Oui.
Il y a plein de personnes pour qui... tu vois, combien de fois j'ai entendu... moins maintenant, parce que j'ai peut-être aussi changé de milieu. Et puis, on a évolué. Mais à l'époque, genre, j'ai entendu genre, que le consentement, c'était super relou, quoi. Enfin, débandant. Que c'était pas sexy du tout. Je sais, genre, ah ouais, ça va être galère pour ma sexualité. Enfin, tu vois, genre... Je trouve ça super sexy et super excitant qu'on me demande si on peut m'embrasser, tu vois. C'est déjà genre... Je pense que je mouille déjà tout ce que je sais, quoi.
franchement, je suis d'accord. Il faut une assurance, il faut une confiance.
Mais de ouf.
Il faut se sentir à l'aise.
Quoi.
Et puis, Oui, de juste imposer, en fait, de communiquer sur ses boundaries, ouais, sur ses limites et sur les besoins, et d'être à l'écoute de l'autre et laisser le choix. Et le moment reste quand même surprenant, hein, donc...
Mais oui, complètement. Ouais. Et puis, en plus de ça, dans l'idée de me dire que j'ai quand même un physique imposant, donc dans l'espace physique, je suis une certaine masse quand même. Enfin, sans aucune dénigration là-dessus... Ouais. Je suis super proud de mon 1m93, 90 kilos.
Amazon
pas de problème. Ouais, grave, Amazon Realness. Ça, mais je sais qu'il y a plein de gens qui pensent que de prime abord, comme ça, pour plein de personnes, j'ai des retours. On dirait que tu es une personne froide. Mm-hmm. Je suis assez difficile, d'accès. Mm-hmm. Déjà sur le terme de l'apparence physique extérieure et tout, ce que je considère avoir quand même construit. Venant d'une ville de fachos et tout, il fallait bien que je fasse quelque chose pour survivre.
Tout à fait.
Mais du coup, comprenant ça, quelqu'un qui vient voir pour me draguer, qui assume.
Et qui, en et plus
qui
de ça.
Me dit genre, est-ce que je peux t'embrasser ou est-ce que je peux te prendre la main Est-ce que je peux te toucher la main, machin. Je me dis genre, mais.
C'est génial.
Mais qui êtes-vous Bonsoir.
Vous voulez mon 04
C'est ça. Mais qui êtes-vous Personne. Ouais.
Et bien, après avoir écouté Baxter parler de son asexualité, j'aimerais un petit peu introduire les gens qui n'ont pas encore entendu parler de ses identités à ce sujet. Alors, on va donner ici des données assez générales, mais il faut se rappeler en tout temps qu'une personne n'est pas l'autre et que donc ce qui s'applique à l'un ne s'applique pas à l'autre. Alors, asexuel, c'est une personne qui ne ressent pas de désir sexuel, d'attirance sexuelle. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être frigide ou quoi que ce soit. Certaines personnes asexuelles peuvent quand même avoir de bons rapports, peuvent avoir des orgasmes, etc. Certains peuvent parfois consentir à des rapports, mais ils ne le font pas par désir sexuel, ils le feront parce que d'autres raisons, l'idée leur plaît, ou ils ont envie de se rapprocher de leur partenaire, ou que sais-je. Mais ce ne sera pas une envie physique, une pulsion, un désir physique qui sera le moteur de cette décision. Donc les asexuels peuvent avoir différentes manières de voir la sexualité, certains peuvent avoir un rapport neutre, au rapport, certains peuvent être tout à fait dégoûtés par les rapports et d'autres peuvent les mêmes les voir de manière assez positive. Je dirais que le simple point commun qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas un besoin pour eux, ce n'est pas quelque chose qui les intéresse. Et justement, dans cette société hypersexualisée dont je vous parlais avant, ces identités dénotent et les gens ne comprennent pas que ces gens puissent être comme ça ou pensent que c'est un choix et qu'ils passent à côté de quelque chose. Alors que c'est pas un choix et que c'est pour ça que ce sont des identités protégées qui font partie du groupe LGBTQIA+, le A, hein, c'est asexuel et aromantique également, car elles sont susceptibles de persécution et d'oppression. Alors certains argumentent que les asexuels ne sont pas victimes d'oppression particulière, mais quand on voit dans la société actuelle la pression qu'il y a pour avoir des rapports, je sais que leurs existences sont radicales et doivent être protégées. Ces personnes sont parfois victimes de viols correctifs, que ce soit par leur partenaire ou d'autres. En écoutant un podcast d'une personne asexuelle, sa gynécologue lui conseillait de se masturber pour mettre la machine en route. Voilà, comme j'avais dit, l'appétit vient en mangeant. Voilà, qu'il faut se masturber jusqu'à ce que ça arrive. Et je pense que c'est avec un raisonnement pareil qu'on arrive à des dérives qui... On croit que forcer quelqu'un à faire ça, ça pourrait le soigner ou le changer. Donc, il faut vraiment changer notre point de vue maintenant. Alors, il y a différents types d'asexualité. Moi, je vous ai parlé là de choses un peu plus génériques. Mais il y a des choses des identités un peu plus spécifiques. Il y a des gens qui sont ce qu'on appelle demisexuels. Et c'est des gens qui sont majoritairement asexuels, mais qui peuvent... éprouver du désir sexuel quand ils sont avec une personne avec laquelle ils sont très proches et envers laquelle ils éprouvent des sentiments amoureux. Et donc c'est uniquement dans ce cas-là que l'attirance sexuelle peut arriver. Donc c'est dans des conditions très précises d'amour et de fusion, etc., qu'il y aura attirance sexuelle. Sinon, en temps normal, pas de désir, rien. Il y a aussi des gens qui ont une sexualité grise, c'est-à-dire une sexualité où la principale partie du temps, on est asexuel, avec des rares exceptions. Voilà, donc ça peut fluctuer, comme quoi, enfin, de toute façon, on sait que rien n'est... Tout fluctue tout le temps, hein, et donc... Et il y a des personnes qui ont le contraire, ils peuvent avoir du désir physique pour une personne quand ils ne la connaissent pas. Et une fois qu'ils connaissent plus la personne, le désir disparaît. Cela s'appelle des free sexuels. Alors, il y a aussi des égosexuels. C'est des personnes qui sont excitées par des fantasmes sexuels ou par exemple en regardant de la pornographie, etc. mais qui ne peuvent pas s'imaginer comme faisant partie de la relation sexuelle. Donc ces personnes pourront ressentir du désir, mais ils n'auront jamais envie que ça leur arrive, qu'ils aient eux-mêmes des relations. Il y a également la cupiosexualité, c'est le principe de coucher sans attirance physique. Donc certains peuvent se retrouver dans l'identité cupiosexuelle, c'est des personnes qui ont une sexualité active, mais... On sait qu'on ne couche pas uniquement que pour apaiser son désir sexuel. Il y a de ça, mais il y a aussi d'autres facteurs d'intimité, de partage, de régulation à deux. C'est une activité en soi. Et pour ces gens, voilà, c'est juste ça. C'est juste une activité. Et donc, les cupiosexuels peuvent décider d'avoir des rapports de temps en temps, bien qu'ils n'éprouvent pas de désir physique. Et voilà. Donc ça, c'est des choses que je voulais vous présenter. Juste pour ouvrir le champ de vision de gens qui n'ont peut-être pas encore entendu parler de ça, parce que c'est finalement une des identités LGBT dont on parle le moins. Et en fait, l'important que je voulais vous partager dans cette chronique, et dans mes plusieurs chroniques, c'est vraiment qu'il faut savoir qu'il n'y a aucune donnée générale en ce qui concerne la sexualité, et qu'il faut énormément de bienveillance quand on aborde les gens et dont on se parle entre nous. Et voilà, c'est ce que je vous souhaite à tous. Et c'est
de la douceur et de la bienveillance.
Exactement. Alors, je vais clôturer sur ça. Je vais vous dire merci à tous pour cette émission. Merci à Bissi, qui est avec moi à l'antenne.
Merci beaucoup à King Baxter, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux pour trouver plus d'infos.
Et merci à Alex et Steph en régie. Et n'hésitez pas à aller écouter notre podcast sur notre SoundCloud et pourquoi pas réécouter notre ancienne émission sur les orgasmes, notamment, qu'on l'avait déjà fait, ça sera bien dans le thème. Et à bientôt et merci de nous avoir écoutés.
Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedi du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.